Mais à l'époque, quand Jésus disait qu'il va aller jusqu'à Golgotha, les disciples étaient tristes. Et les disciples ne comprenaient pas exactement, mais qu'est-ce qu'il veut dire, celui-là? Nous, on veut qu'il reste avec nous. Mais lui, il veut partir. Mais il veut partir où? Où tu vas aller? Où tu vas aller? Ils se sont posés beaucoup de questions. Et la méditation de ce soir se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 16, l'évangile de Jean, chapitre 16, les versets 1 à 11. Évangile de Jean, chapitre 16, les versets 1 à 11. Nous lisons la parole de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 16, et nous commençons à lire à partir du verset 1. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé, dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. C'est la parole de Dieu. Oui, Jésus-Christ lui-même dit, je ne vous ai pas parlé dès le commencement, je ne vous ai pas parlé de toutes ces choses-là qu'il vient de dire. Il n'a pas dit ça aux disciples dès le commencement parce qu'il était avec eux. Et nous savons tous qu'au début du ministère de Jésus-Christ, Jésus avait peu parlé de la persécution qui les attendait. Il ne leur a pas parlé de ça. C'était vers la fin qu'il a commencé à leur dire que vous serez persécutés. Mais au début, il n'a pas dit cela. Pourquoi? Comme nous l'avons lu, parce qu'il était avec eux. Et quand il était avec eux, Jésus-Christ était la cible de la haine du monde. Il était la cible des pharisiens. On lui disait, tout ce qu'on lui disait, ça tombait sur eux, sur lui, pas sur les disciples. Ça tombait sur Jésus-Christ, pas sur les disciples. C'est pour cela maintenant, il dit que bon, moi je veux partir, mais préparez-vous. C'est vous maintenant, cette haine-là qui tombait sur moi, sera tombé maintenant sur vous. Vous serez persécutés. Et dans Jean chapitre 16, dans ce chapitre, nous voyons que Jésus prépare ses disciples à son départ. Comme on fait d'habitude, hein? Surtout nous les papas, comme à la cuisine, on ne sait pas vraiment grand-chose. Des fois, quand maman n'est pas là, quand la sœur n'est pas là pendant 3-4 jours, surtout quand tu as des enfants, qu'est-ce que la maman fait? Elle prépare quelque chose. Ça, c'est pour 2 jours. Ça, c'est pour 1 jour. Ça, donc, elle prépare tout ça parce que c'est qu'elle ne sera pas là pendant un temps. Surtout pour les enfants, même pour nous, les vieux. Mais bon, on est toujours des enfants, des grands enfants en plus. Voilà. Et Jésus a fait pareil. Il a préparé ses disciples. Il a commencé à préparer ses disciples. Oui, et nous verrons que quelques heures plus tard, il sera arrêté et les disciples dispersés. Donc, il avait raison de commencer à préparer les disciples à ce qui les attendait. Au verset 5, nous avons lu, Jésus dit à ses disciples, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu ?» C'est bizarre quand même. Souvent, à la maison, c'est pas le cas. Donc, c'est pas le cas. Ah bon, je m'en vais, mais tu vas où là? Il est 22h là, tu vas où là? Et c'est pareil avec les disciples. Jésus leur dit, je m'en vais. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et personne ne me demande, où vas-tu? Mais si nous faisons un petit pas en arrière au chapitre 13, au verset 36, Pierre avait posé cette question à Jésus-Christ. Jean chapitre 13, verset 36. Pierre a dit, « Seigneur, où vas-tu ? Où vas-tu ? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Chapitre 13, Pierre avait posé la question. Mais maintenant, au chapitre 16, quand les choses deviennent, comme on dit, les choses deviennent vraiment très sérieuses, personne ne lui pose la question. Dans Jean chapitre 14, toujours un petit pas en arrière, Jean 14 au verset 5, Thomas posa la même question à Jésus-Christ. Thomas dit dans Jean 14, 5, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La question a été posée bien avant. Mais maintenant, quand Jésus leur confirme que maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, personne n'a posé cette question, « Où vas-tu ?» Pourquoi ? Parce que les disciples était plus préoccupé par l'idée de se séparer avec Jésus. Ça les troublait, ça les préoccupait beaucoup. Cette pensée, cette idée les préoccupait et ils ne pensaient même plus maintenant à la destination de leur Seigneur, où il va aller. Ils n'ont plus pensé à ça. Ils disent, ah là là, il s'en va. Que deviendrons-nous ? Comment les choses vont se passer sans Christ? C'est ça qui les perturbait. Et quand cette pensée a perturbé leur esprit, ils ont carrément oublié la destination de leur maître, où il va. Personne n'a posé cette question. C'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui connaît, qui sonde le rein et le cœur, lui qui connaît nos pensées, leur dit que, je m'en vais maintenant, celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Parce que leurs pensées étaient ailleurs, étaient concentrées sur eux-mêmes. Leurs pensées étaient concentrées sur l'après Jésus-Christ. Comment on va faire? Vous savez, ils ont pensé plus aux conséquences de la séparation. Déjà, quand lui-même était présent, on a vu comment on les considérait, comment on les traitait. Et maintenant, quand il ne sera plus avec nous, ça sera comment? Ils ont pensé aux conséquences de la séparation sur eux-mêmes. Et Jésus dit au verset 6, « Parce que je vous dis que je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, la tristesse a rempli votre cœur. » Ils étaient triste. Vous savez, Jésus comprend leur tristesse. Ils étaient tristes en ce moment quand Jésus leur a dit tout cela. Mais dans l'esprit de Jésus, Jésus-Christ savait que leur avenir était meilleur sans lui. Sur lui, il part, l'air à venir serait mieux encore que s'il le restait. Ils étaient tristes, c'est vrai, mais le départ de Jésus était une étape importante dans leur croissance spirituelle en tant que disciples. Christ ne pouvait pas rester. Il fallait qu'il parte. Il fallait qu'il parte, parce que c'était très essentiel et très important pour les disciples. Vous savez, quand quelqu'un que nous aimons est sur le point de mourir, ce n'est pas dans notre intérêt qu'il s'en aille. Nous avons tous connu cela. On a perdu, chacun de nous a perdu déjà un être cher. Quand il s'en va, franchement, on n'a pas cet intérêt qu'il nous quitte, quoi. On souhaite toujours qu'il reste avec nous. Qu'il reste avec nous. Et c'est ce que les disciples ont manifesté. Mais Jésus-Christ avait une autre pensée. Il dit que non, si je m'en vais, vous mènerez une vie meilleure que si je reste avec vous. Alors Jésus leur dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous l'avez dit, si je ne pars pas, le Consolateur, l'Esprit Saint ne viendra pas. Mais si je m'en vais, si je pars, je vous l'enverrai. Et le titre de notre méditation de ce soir, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est comme ça que j'ai intitulé cette méditation. Il vous est avantageux que je m'en aille. Oui, le Seigneur était pleinement conscient des besoins de ses disciples. Et il est aussi pleinement conscient de nos besoins aujourd'hui. Il est conscient de nos besoins aujourd'hui, comme il était conscient des besoins des disciples à l'époque. Il voulait dire que la présence de l'action du Saint-Esprit serait meilleure que sa présence physique. C'est ce qu'il voulait dire aux disciples. Vous n'aurez plus ma présence physique, c'est vrai, mais la présence du Saint-Esprit sera meilleure pour vous. Oui, Jésus était physiquement présent avec eux. Mais il y a une chose, quand Jésus était physiquement présent avec les disciples, il avait un corps qui ne pouvait pas lui permettre d'être partout. Il avait un corps qui pouvait seulement lui permettre d'être présent à un seul endroit. Physiquement, nous parlons, à un seul endroit. Mais la présence du Saint-Esprit sera avec eux tous, pas seulement un seul disciple, mais tous les disciples. Si le Saint-Esprit qu'il a promis d'envoyer, s'il vient, eh bien, sa présence sera pour tous les disciples, où qu'ils aillent. Mais il y a aussi un aspect que nous devons souligner, que cette présence ne sera pas seulement avec eux, mais cette présence sera en eux. Voilà. Non seulement avec eux, mais la présence du Saint-Esprit sera en eux, dans leur cœur aussi. C'était mieux parce que Jésus-Christ pouvait être avec chaque croyant et à tout moment. Son départ permettrait à Christ d'être présent chez chaque croyant et à tout moment. Vous savez, Jésus pouvait être à Jérusalem, à l'époque, physiquement à Jérusalem, mais il ne pouvait pas être présent à Béthanie. Physiquement, nous parlons. Il ne pouvait pas être présent à Béthanie. Mais quand, s'il envoie le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrais pas vous envoyer le Saint-Esprit. Mais si je m'en ai, je vous l'enverrai. Et s'il envoie le Saint-Esprit, il peut être présent partout. Il est à Pondichéry, il est en même temps à Paris. Il est aux États-Unis, il est en même temps au Congo. Il est en Chine, il est en même temps en Iran. Voilà. Mais à l'époque, physiquement, quand il était avec nous, c'est pratiquement difficile. Nous précisons bien physiquement. Jésus dit dans Matthieu chapitre 18, verset 20, Jésus donc fait cette promesse, il dit, « Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pour que cette promesse se réalise, nous revenons à ce que Jésus-Christ a dit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Sinon, je ne pourrais pas être présent partout. Il ne pouvait pas tenir cette promesse physiquement, mais il pouvait tenir cette promesse selon l'esprit. Selon l'esprit, combien de réunions se font tout de suite là, à cette heure-là, il est 18h50, donc 19h55, ne serait-ce qu'à Paris. Il y a peut-être, bon, je ne sais pas, mais bon, admettons, il y a peut-être plus de 50 réunions en ce moment-là. Mais Jésus-Christ est présent. Il est présent avec nous, il est présent là-bas, il est présent. Tout cela grâce à l'Esprit Saint, grâce au Saint-Esprit. Oui, certains chrétiens seraient heureux si Jésus-Christ était physiquement présent sur cette terre. C'est vrai, il est physiquement présent à Saint-Denis, mais ceux qui sont en sa présence immédiate, ils sont heureux. Et alors? Et ceux qui sont à la Courneuve, ils ne seront pas heureux parce qu'ils ne peuvent pas être là-bas physiquement. Ne peut pas être là-bas physiquement. Mais les autres chrétiens auraient le sentiment que Jésus n'était pas avec eux parce qu'ils ne voient pas, ils ne voient pas Jésus-Christ physiquement. Oui, le départ de Jésus est bénéfique, était bénéfique et pour les apôtres et pour nous, car nous pouvons maintenant avoir une relation confiante avec Dieu. La Bible dit, même si nous avons connu Christ de manière humaine, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Le disciple avait connu de manière humaine, c'est-à-dire physiquement Jésus-Christ, mais maintenant nous ne connaissons plus Jésus de cette manière-là. Lisons cela dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 15 à 16. 2 Corinthiens chapitre 5. Versets 15 à 16. Afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière humaine, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Effectivement, nous ne connaissons plus Christ de cette manière-là. Nous le connaissons et nous le voyons d'une manière spirituellement, nous le connaissons et nous le voyons. C'est pour cela, frères et sœurs, le départ de Jésus-Christ, oui, il y a eu la tristesse pour les disciples, mais c'était avantageux, non seulement pour les disciples, mais pour nous tous. Et nous devons saisir l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que nous marchons maintenant spirituellement par la foi et non par la vue. Galates 5, 16 dit, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Il suffit de regarder les disciples eux-mêmes. Avant le départ de Jésus-Christ, quand il était avec eux, ils étaient effrayés, manquant de foi. Ils avaient des fois des doutes. Mais après le départ de Jésus-Christ et après l'arrivée du Consolateur du Saint-Esprit, après Pentecôte, dans le livre des Actes, ils étaient devenus des hommes de foi, ayant du fruit de l'Esprit dans leur vie. Voilà le changement. Avant, ils doutaient, ils étaient effrayés. Et Jésus-Christ les qualifiait même hommes de peu de foi. Mais quand Jésus-Christ a envoyé le Consolateur qui est survenu sur eux, ils sont devenus des hommes de foi. Et ils ont fait des merveilles, des merveilles, des merveilles pour la gloire de Dieu. Le Seigneur dit au verset 7, il vous est avantageux que je m'en aille. Tout ce qu'il a fait était à notre avantage. Nous ne pouvons que le remercier, lui dire merci. C'est pour nous qu'il était battu et qu'on s'est moqué de lui à Golgotha. C'est pour nous qu'il était condamné à mort et cloué sur la croix à Golgotha. C'était à notre avantage. C'était à notre avantage. C'est ce que les disciples ne comprenaient pas avant. C'est pour cela qu'il leur a dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Parce qu'à Golgotha, on l'a chanté tout à l'heure, c'est là où nos fardeaux sont tombés. C'est là où Jésus nous a pardonnés. Et c'est là où il nous a donné la victoire. Oui, le verset 7b dit, « Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, dit le Seigneur. » Et ensuite, Jésus décrit ce que ferait le Saint-Esprit, le but pour lequel il serait envoyé. Oui, il y a une chose que nous devons comprendre. Jésus physiquement présent et Jésus spirituellement présent. Voilà les deux choses qu'il voulait faire voir aux disciples. Et il y a un passage, il y a un frère samedi qui nous a cité un passage biblique qui a dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. » Nous, on n'a pas vu Jésus-Christ physiquement, mais nous le voyons spirituellement et nous croyons en lui. Et nous croyons en lui. Alors Jésus décrit ce que le Saint-Esprit fera, le but pour lequel il serait envoyé. Il dit au verset 8, « Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, le Consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Trois choses, le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, il dit, « Parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. » Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Ouais, vous savez, quand Jésus dit que le Saint-Esprit nous convaincra du péché, le péché est la vérité de l'homme. Hein. C'est la vérité de l'homme. Nous avons cette nature pécheresse. Nous avons cette nature pécheresse. La justice est la vérité de Dieu. Dieu est juste. C'est la vérité de Dieu. Et le jugement, c'est la combinaison péché et de la justice. Vous savez, le péché, vous acceptez vos péchés, vous les confessez, vous aurez la justice de Dieu, vous ne passez pas au jugement. Le péché, vous les gardez, vous les choyez, vous ne reconnaissez même pas que vous êtes pécheur, eh bien, vous négligez la justice de Dieu, vous n'acceptez pas Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur, vous ignorez cette vérité, la conséquence, vous passez au jugement. C'est ça donc le péché, c'est la vérité sur l'homme, la justice, c'est la vérité sur Dieu, et le jugement, la conséquence ou la combinaison de deux. Oui, l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde est de nous convaincre du péché. C'est ce que Jésus-Christ dit. L'œuvre du Saint-Esprit dans le monde, c'est de nous convaincre du péché. Il ne cherche pas, le Saint-Esprit ne cherche pas à nous faire voir nos péchés. Oui, il nous fait voir nos péchés, mais il nous tourne vers Jésus-Christ. Il nous tourne vers Jésus-Christ. L'Esprit nous convainc que nous sommes des pécheurs, que nul n'est parfait dans ce monde et que nous devons nous tourner vers Jésus-Christ. Romains 3, 23 dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » L'homme doit avoir cette conviction en lui. Quand le Saint-Esprit te parle, quand le Saint-Esprit te fait voir ton péché, mon péché, l'homme doit avoir cette conviction en lui, je suis un rebelle perdu, luttant contre Dieu et contre la parole de Dieu, désobéissant même à la parole de Dieu. C'est ça, l'œuvre du Saint-Esprit, nous donner cette conviction-là, que tu t'examines toi-même, tu rentres en toi-même. Et le Saint-Esprit te fait voir que oui, il y a certaines choses que je fais dans ma vie. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. J'ai désobéi à la parole de Dieu. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui fait dans nos vies. Et je dois me tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, dans le livre des Actes, Pierre parlait à une foule à Jérusalem de ce que Dieu avait fait à travers Jésus-Christ. Dans Actes 2, 37, il est dit ceci. Quand Pierre a prêché, quand Pierre leur a fait voir leurs péchés, ce qu'ils ont fait de mal, et le Saint-Esprit a touché leur cœur, il est dit au verset 37 de Actes 2, « Lorsqu'ils entendirent cela, ils furent touchés jusqu'au cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous ? Que ferons-nous ?» C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit touche ton cœur, t'es convainc du péché que non, les choses que je fais dans ma vie, ce n'est pas bien. Alors, tu dois te poser maintenant, que dois-je faire? Et bien, ce que tu dois faire, c'est te tourner maintenant vers Dieu. Lui qui est la justice. Et le Saint-Esprit te convaincra de la justice, de la vérité de Jésus-Christ. Et tu ne passeras pas au jugement. Oui, Pierre a dit cela aux apôtres. Mais Pierre leur répondit, quand ils ont dit, que ferons-nous? La réponse de Pierre était, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Voilà ce que fait l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et quand tu vas te poser cette question, que dois-je faire? L'apôtre Pierre a dit à ces Juifs à Jérusalem, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Le Saint-Esprit ne nous convainc pas seulement du péché, mais il tourne nos regards vers Jésus-Christ. même après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ comme nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit continue de nous convaincre du péché. Il continue de nous convaincre du péché. C'est pour cela que nous devons nous repentir jour après jour, dès que nous constatons qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous fait voir cela, que ce que je fais, ce que je dis n'est pas bon. Alors, repens-toi. Repens-toi. Oui, frères et sœurs, le Saint-Esprit nous fait voir l'importance de faire confiance à Jésus et de s'appuyer sur lui pour éviter le péché dans notre vie. Appuyons-nous sur nous. Le Saint-Esprit est là. Samedi dernier, on avait eu une étude avec un frère. Et le frère m'a dit, « Ah, mais des fois, quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, c'est comme s'il y a une voix qui me dit, « Hé, ce que je suis en train de faire là n'est pas bon. » C'est ça. Et je pense que chacun de nous a déjà ressenti cela. Des fois, on étouffe cette voix qui nous parle, des fois. Mais en étouffant cela, ce n'est pas une bonne chose. Nous devons nous repentir. La Bible dit qu'il nous convaincra en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Il ne croit pas en moi. Le Saint-Esprit te convainc du péché. Il te fait montrer ton péché. Tu ne veux pas l'abandonner. Eh bien, c'est l'incrédulité, le rejet de Jésus-Christ qui finit par prouver qu'on est coupable. Il y en a qui le font. Ils sont conscients de leur péché. Le Saint-Esprit leur a fait voir leur péché. Mais ils ne veulent pas l'abandonner. Ils continuent sur cette voie. C'est ça l'incrédulité. Ils ont rejeté la voix du Saint-Esprit. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Et le péché, c'est la vérité sur l'homme. La justice, c'est la vérité sur Dieu. Et le jugement, c'est la combinaison de deux. Soit tu passes au jugement, soit tu ne passes pas au jugement. Pourquoi? Parce que tu es sauvé. Tu as reconnu tes péchés, tu les as confessés, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il t'a donné la vie éternelle et tu ne passeras pas au jugement. Oui, la troisième chose, il nous convaincra de justice parce que je vais vers mon Père. Si l'Esprit nous convainc de péché, alors il nous convainc aussi de notre besoin de justice de Dieu. Dieu a dit aux pharisiens, si votre justice ne dépasse celle des pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Il a dit, si votre justice ne dépasse pas la justice des pharisiens, c'est-à-dire la justice des hommes, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ quand il est monté au ciel justifie Jésus en tant que juste devant Dieu. Sinon, il n'allait pas monter au ciel. Ça, c'est la justice de Dieu. Acte 3, 14 dit, quand Paul, Pierre parlait, il a dit, « Vous avez renié les saints et les justes que vous avez demandés, qu'on vous accorda la grâce des meurtriers. » Quand on leur a demandé, « Voulez-vous qu'on vous libère Jésus ou Barabbas ?» La foule a dit, « Barabbas. » Voilà la justice des hommes, au lieu de demander Jésus-Christ. Oui, ils ont renié le saint juste. C'est pour cela, frères et sœurs, le Saint-Esprit monte au monde la justice de Jésus et le manque de justice dans le monde. C'est vrai, le manque de justice dans le monde. Combien des hommes ont été condamnés et qui sont innocents? Ça, c'est la justice de Dieu, du monde. Aux États-Unis, combien de personnes sont passées sur la chaise électrique alors qu'ils étaient innocents? Des fois, 20 ans après, 25 ans après, on dit que ah, le pauvre était innocent. Mais c'est fini, il était déjà passé sur la chaise électrique. Ça, c'est la justice des hommes. Mais la justice de Dieu est véritable. C'est la vérité. Le Saint-Esprit nous montre au monde la justice de Jésus et le manque de la justice dans le monde. Ce monde-là qu'il a rejeté. Oui, il va nous convaincre du jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Il est déjà jugé. Jésus fait clairement référence à Satan quand il parle de cela, que le prince de ce monde est déjà jugé. Satan qui est appelé le prince et la puissance de l'air, le prince de ce monde. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 2 nous dit ceci. Vous étiez morts à cause de vos offenses et des péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les cours de ce monde, selon le prince et la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de désobéissance. Et en d'autres termes, frères et sœurs, Satan est déjà condamné. Il est déjà condamné et tous ceux qui le suivent subiront le même sort que Satan. Ils seront aussi condamnés. C'est pour cela que la parole de Dieu nous exhorte de marcher d'une manière des enfants de lumière, obéissant à la parole de Dieu. Oui, le Saint-Esprit convainc le monde afin que le monde puisse comprendre qu'un jour, le monde se tiendra devant le grand juge de tous, qui est Jésus-Christ, lors du jugement. Tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur vie passeront devant le grand jugement, devant ce grand juge Jésus-Christ. Nous allons finir par ce passage de Colossiens 2, verset 15, qui dit « Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » À Golgotha, Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu Satan après avoir triomphé de lui à Golgotha. Et c'est ce que nous avons chanté. C'est là où nos péchés sont tombés. C'est là où Jésus-Christ nous a donné la paix, la vie. Il vit en abondance à Golgotha. Oui, cette confiance vient parce que le Saint-Esprit nous convainc de notre relation avec Dieu en tant que Père. Et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc cela. De nous-mêmes, c'est difficile de comprendre cela, mais le Saint-Esprit nous convainc. Donc nous pouvons nous tenir en présence du Seigneur avec confiance. Et l'Esprit de Dieu agit sur nos cœurs et nous guide vers tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai et tout ce qui est bon. Frères et sœurs, louons le Seigneur pour cela. Quand il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que ce qu'il a fait après est très important pour nous aujourd'hui. C'était vrai pour les disciples et c'est vrai pour nous aujourd'hui. Parce que maintenant Jésus-Christ est avec nous et il est parmi nous. Et il nous a fait même cette promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous, pas physiquement, mais spirituellement, avec le Saint-Esprit. Glorifions le Seigneur et louons le Seigneur pour cela. Prions. Père éternel, merci pour ta parole qui nous fortifie, Seigneur. Merci parce que tu as souffert pour nous. Et cela a été avantageux pour nous. Tu es allé jusqu'à Golgotha. C'était avantageux pour nous. Tu as subi des humiliations. C'était avantageux pour nous, Seigneur. Tout cela parce que tu nous aimes. Tu nous aimes. Et maintenant, nous pouvons nous réjouir parce que ta présence est avec nous, jour après jour, Seigneur mon Dieu. Merci pour cela. Ta parole déclare que notre cœur est le temple du Saint-Esprit. Tu es non seulement avec nous, mais tu es en nous. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen.